Merci, bonsoir. Donc, il y a encore des places devant pour ceux qui sont debout. On est très très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir pour donc la présentation de la 59e édition du Festival d'Avignon. La présentation parisienne, puisque nous avons fait vendredi dernier une traditionnelle présentation que nous faisons toujours d'abord à Avignon avec le représentant des collectivités territoriales. Je voulais remercier Yann Fabre d'être venu d'Anvers pour présenter cette 59e édition à nos côtés, accompagné d'interprète Gabriel Venemer. Et je voulais aussi remercier tous les artistes qui sont dans la salle. Enfin, vous dire que nous aussi, on est heureux d'être ici au Palais de Tokyo et remercier toute l'équipe du Palais de nous accueillir aujourd'hui. Nous poursuivons notre route, faisant pour le Festival d'Avignon le projet que nous avions proposé, qui avait été retenu lorsque nous avons été nommés l'ancien et moi directeur du festival, accompagné des 4 artistes que nous avions choisis alors pour les 4 années de notre mandat, Thomas Ostermayer, puis Yann Fabre, et plus tard, Joseph Nadj et Frédéric Fisbach. L'idée de ce compagnonnage avec l'artiste associé a été, nous semble-t-il, bien compris l'année dernière, et nous avons eu le bonheur de constater, lors de la dernière édition, l'intérêt du public, sa réponse à nos propositions et l'engagement des artistes dans leur art, sur les plateaux, ce qui nous a confortés dans notre projet. La dimension résolument européenne, l'appel à la curiosité des spectateurs, à leur intelligence, l'accessibilité des spectacles qui sont ouverts à chacun, quel que soit son bagage ou sa pratique culturelle, la générosité des artistes, tout cela nous a réjouis. Et c'est ainsi que nous continuons. Parallèlement, nous poursuivons le travail de réorganisation du festival entrepris par nos prédécesseurs, et nous avons eu le plaisir de voir signer entre le festival et les 4 collectivités qui le subventionnent une convention sur 3 ans, stabilisant son financement jusqu'en 2006. Également, de nouveaux statuts pour l'association ont été votés par l'Assemblée Générale qui toilette les anciens statuts qui dataient du début des années 80. Le conseil d'administration va ainsi être renouvelé et outre 8 membres de droit qui représenteront les 4 tutelles financeurs du festival, 7 personnalités qualifiées sont en cours de désignation. Nous avons pour notre part exprimé notre souhait de voir nommer des personnalités qui connaissent le Festival d'Avignon et qui ont un lien très fort avec le spectacle. Le festival a aussi été, l'été passé, le lieu de discussion sur la place de l'art, sur les conditions de sa réalisation, sur les politiques culturelles que nous appelions de nos voeux. L'ensemble des acteurs professionnels et des acteurs politiques se sont réunis à Avignon avec le public pour se parler, s'écouter et tenter de se comprendre. Notre préoccupation sur les questions sociales qui ont secoué notre secteur reste entière et nous sommes attentifs à l'évolution du dossier de l'assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle. Comme vous le savez peut-être, une proposition de loi permettant de garantir la pérennité du système dans la solidarité interprofessionnelle et jetant les bases fondamentales d'un nouvel accord possible est en ce moment à l'étude. Le ministre de la Culture a pour sa part proposé un protocole. Nous souhaitons qu'une solution, quelle qu'elle soit, permette de rebâtir un système adapté aux spécificités de nos métiers pour que cesse la fragilisation d'une partie des artistes et des techniciens qui font le festival. Pour le prochain festival, nous poursuivrons les axes de développement que nous avons entamés l'été passé. Un ancrage sur le territoire d'Avignon, à partir duquel nous pouvons construire un festival européen. L'accompagnement des artistes pour tenter de réaliser leurs rêves et pouvoir le partager avec le public, s'attachant plus particulièrement à sensibiliser les jeunes et un public qui n'aurait pas accès au festival. Ce projet a besoin de temps pour se réaliser et chaque année, nous réinventons avec la couleur et les questions que nous pose l'artiste associé une manière de le servir. Le compagnonnage que nous avons vécu en 2004 avec Thomas Ostermayer, nous l'avons poursuivi avec Yann Fabre. L'aventure est différente dans la mesure où chacun des artistes que nous avons sollicités est une personnalité différente. Mais chaque année, proposer au public un regard particulier sur l'art, sur le théâtre, des pratiques et des places d'artistes différentes, sans les opposer ou les hiérarchiser, mais au contraire souligner leur complémentarité, c'est cela qui nous paraît très important. Ainsi, Inspiré par l'œuvre et les questions de Yann Fabre et par nos longues conversations à Anvers ou à Lyon, nous avons donc fait un magnifique voyage dans son univers avec beaucoup de joie, d'interrogations sur nous-mêmes. Et c'est de là que Vincent a choisi les artistes qui composent le programme du prochain festival auquel nous vous convions.
Donc, nous sommes très heureux de vous donner aujourd'hui l'avant-programme de cette 59e édition du Festival d'Avignon. Donc, on a choisi pour illustrer cet avant-programme une sculpture de Yann Fabre, située sur la une plage de la mer du Nord, à Newport. Sculpture intitulée « À la recherche d'Utopia ». Ce serait un beau sous-titre pour le festival que nous vous proposons cet été. Quand nous avons posé notre projet et imaginé le besoin d'être accompagné chaque année par un artiste associé, le choix de Yann Fabre était une évidence et nous semblait un artiste dont la richesse, la diversité de son travail, la complexité de son travail aussi, était parfaite pour accompagner et nourrir une édition du festival. Yann Fabre, c'est un artiste, c'est un poète, qui ne cesse de questionner la vitalité et la beauté de l'être humain, en explorant jusque dans ses limites son corps animal, son corps spirituel, son corps sensible. Il traduit ses visions poétiques à travers des champs artistiques très différents. Et chaque forme, des arts de la scène aux arts visuels, lui permet d'exprimer des choses différentes, des visions et des questionnements différents, mais toujours avec une très grande puissance visuelle, une très grande puissance sensible et une très grande liberté. Une liberté qui pourrait venir de l'enfance et qui pourrait venir aussi peut-être d'un esprit du carnaval, d'un esprit du jeu, de la liberté, de la transgression et de la métamorphose. Donc nous avons eu envie de montrer les différentes facettes du travail de Yann Fabre, les grands champs d'expression. Tout d'abord les grands spectacles d'art de la scène, où le théâtre et la danse se mêlent dans le corps des interprètes. Le travail d'écriture et de direction d'acteurs, avec deux monologues de théâtre, c'est un travail peut-être moins connu en France. Les arts visuels, et enfin son envie de confronter les arts avec la pensée, comme il le fait régulièrement dans sa revue d'art nommée Janus. Yann Fabre a souhaité être présent dans ce festival comme un créateur, dans cet état de créativité quasi permanent qui l'anime, nuit et jour. Il est entré depuis le mois de janvier dans un long processus de création pour pouvoir offrir au public d'Avignon deux grandes créations et deux spectacles qu'il recrée pour le festival. Plus une exposition sur son art visuel et, je l'espère, une sculpture qui resterait dans la ville d'Avignon après le festival, intitulée « L'homme qui pleure et qui rit ». Alors tout d'abord dans la cour d'honneur, qui est un lieu qui m'inspire beaucoup par sa mémoire, par son espace, par son histoire aussi. Yann va y faire une nouvelle grande création intitulée « L'histoire des larmes ». Une pièce qui va interroger notre besoin de consolation, et il est parti comme point de départ de son travail par une question « Pourquoi l'homme pleure-t-il toujours après la catastrophe et non pas avant ?» C'est le point de départ d'un travail qu'il est en train d'écrire et dont les répétitions commenceront en avril avec une vingtaine de danseurs et musiciens. Cette pièce, l'histoire des larmes, va s'inscrire un peu comme une suite à Je suis sans, pièce qu'il avait créée pour la cour il y a 4 ans. C'était une pièce inspirée par un autre type du corps, le sang, et qui questionnait nos peurs, nos angoisses, qui lui semblaient proches de celles du Moyen-Âge, dit-il. On y retrouvait le monde et la folie des grands peintres flamands comme Bruegel, comme Bosch. Et Yann a recréé ce spectacle pour le festival avec un texte et une distribution en partie renouvelée par rapport à la création de 2001. Je suis sûr qu'il y a la pièce du Moyen-Âge. L'histoire des larmes est pour lui une pièce qui démarre à la Renaissance. Un autre travail, enfin c'est une autre forme importante du travail de Yann, c'est son travail d'écriture et son travail de direction d'acteur. Pour le festival, il présentera 2 spectacles au théâtre municipal, 2 textes écrits pour un acteur, un formidable acteur flamand, dont le nom est assez difficile à prononcer, Dirk Roeftroeft. La première pièce est L'Empereur de la Perte, la deuxième est Le Roi du Plagiat. L'Empereur de la Perte est une pièce qu'il a créée en 1996, en flamand. C'est l'histoire d'un clown, comme une métaphore de l'artiste, d'un clown qui rêve de redevenir un ange. La deuxième pièce, qu'il vient d'écrire, toujours pour le même acteur, s'intitule « Le roi du plagiat ». Et là, cette fois-ci, c'est un ange qui souhaite devenir un être humain, et plus particulièrement un acteur. C'est une pièce qui parle du rapport entre ce qui est original et ce qui est une copie, et qu'est-ce qui est véritablement authentique. Et ces deux pièces sont présentées dans la deuxième partie du festival, au théâtre municipal. On souhaitait aussi, ce qui a, je crois, peu été fait, présenter à côté de l'œuvre des arts de la scène de Yann, son œuvre visuelle de façon importante. Donc une exposition présentant des dessins, des sculptures et des films de Yann Pham va être présentée à la Maison Jean Vilar, qui, comme le disait tout à l'heure Jérôme Sens, nous a ouvert ses portes pour inventer ensemble ce projet. Il nous semblait, c'est une idée pour nous assez belle, que dans la même maison du fondateur du festival, que l'artiste associé qui donne aujourd'hui son âme au festival se soit rapproché, qu'on puisse, dans ce lieu, découvrir une autre facette d'un artiste, les formes visuelles d'un artiste. Et on retrouvait aussi, peut-être, un des esprits d'origine du festival, qui est né d'un rêve, d'un poète, Richard, d'un amateur d'art, de la famille Zervos, qui présentait les œuvres de Picasso, de Braille, de Matisse, et d'un homme de la scène, Jean Villard. Donc l'exposition est en train de s'imaginer, en ce moment, et c'est Jérôme Sens qui vous accueille ici ce soir, qui en est le commissaire. Enfin, une autre partie importante du travail de Yann Pham est la confrontation de l'art avec la pensée, et donc avec des scientifiques, avec des penseurs, des philosophes. Et donc nous préparons, avec lui et sa revue Janus, un nouveau cycle du théâtre des idées, cycle que nous avons initié l'année dernière, lors du festival avec Thomas Ostermayer. Donc avant de décrire l'ensemble du festival, je vais passer la parole à Yann pour qu'il nous dise un petit peu quels sont les enjeux pour lui de ce rendez-vous avec Avignon.
Bonsoir. Je suis un étudiant de langue française, mais c'est très difficile de parler avec nuance et un beau mademoiselle à côté de moi, en français. Ok, good evening. First of all, it was a long and fruitful dialogue with Vincent and Hortense. A dialogue that's brought us to the essence of thinking about what means the body today in our society, what means the beauty today in our society, and also, of course, there were a lot of discussions about which artists we would invite, which we liked, which we didn't like. And this brought us over time, let us say, to the matrix, the basic idea for the festival.
Bien, bonsoir à vous tous. Nous avons eu un dialogue très long et très fructueux avec Vincent et Hortense. Et finalement, on était arrivé à trouver l'essence de ce que nous pensons, c'est-à-dire qu'est-ce que le corps aujourd'hui, qu'est-ce que le corps dans la société où nous vivons, qu'est-ce que la beauté dans cette société. Et nous avons également beaucoup discuté des artistes qui seraient invités, ce que nous aimons, ce que nous aimons moins. Et finalement, peu à peu, c'est concrétiser la matrice, la base de notre coopération pour le festival.
From the beginning, when we met, it was clear that the choice would be different than the last year with Ostermayer. There was a kind of desire from me in the dialogue between Saint and Paul to choose more for what I would say much more artists with their own universe, with their own creations.
Et d'emblée, c'était tout à fait clair pour nous que ça serait différent cette année des années précédentes, différent de ce qui s'était passé avec Thomas Ostermayer. Moi, j'ai surtout exprimé dans ce dialogue mon désir de choisir des artistes qui avaient leur univers à part, leur propre univers et leur propre création.
And to be honest, also the job was quite hard in that sense that I was not used to see a lot of performances, and I had to go back to see the last year's performances, and I did some very interesting discoveries from for example, from a young French artist I like very much, Genevieve. Yes, Ian. It was a very discovery, so it was for me also a challenge to then so in Hortense to discover a younger generation of artists also. So, and a lot of the French artists. So it was a hard job, but I did it with pleasure.
Et j'avais presque un peu perdu l'habitude de voir des présentations, des performances sur scène, donc il a fallu que je me rattrape, que je vois beaucoup de choses. J'ai trouvé des choses très intéressantes, par exemple le travail de Geneviève Vienne, toute une nouvelle génération de jeunes artistes, en grande partie françaises. Mais c'était beaucoup de travail.
For me, to work in Avignon, it started out a couple of years ago. First time I visited Courtenay was more than 10-12 years ago, I think. And then I started working on the piece called Just We Saw. And for me it was a challenge to really create something in that space, because it's a very spiritual place, with a lot of history behind, a lot of memory. There was still a lot of blood on the walls when I visited the space, and this influenced me to write a bigger text for this space. But at the same time, for Just We Saw, it was a kind of apotheose of a research of the blood during my own solo performances from the 70, from the years 77 until now.
C'est un travail qui a commencé il y a plusieurs années. Je crois que la première fois que j'ai travaillé pour et dans la Coupe d'honneur à Avignon, c'était il y a 10 ou 12 ans. C'était pour cette pièce qui s'appelle Je suis sans. Et la Grande Coupe d'honneur, c'est véritablement un défi par cet espace très particulier qui porte une histoire, qui porte une mémoire. On a l'impression que les murs sont couverts de sang. Et donc j'ai décidé d'écrire un texte beaucoup plus long par rapport et spécialement fait pour cet espace. Je suis sans, c'est une sorte d'apothéose aussi de mon propre travail, de mes propres recherches, et j'ai dû revenir un petit peu sur ce que j'avais fait depuis 1977 à aujourd'hui.
For the history of tears, the new text I'm working on, in a sense, it's also inspired by my experience to work in the Courtenay, but at the same time also inspired by the drawings I made the last 10 years of my own tears. And you could say that Just We Saw was a piece about the Middle Ages, where there was a strong relationship the human body with God. And now history of tears, in a sense, which is resolved at the end of the piece, the Middle Ages finished. And which is resolved with the history of tears, the Renaissance starts. So there's a completely different dialogue between the human body and God. And in the piece, it will be much more concentrated in a sense to the inside of the human body. And the big difference will be also that I think, which is we saw, the mise-en-scène was completely projected against the back wall, because that was a set. And now, in a sense, for history of tears, the topography of the scene will be very important. Always the stage will be the space of melancholy of the tears of God.
Et l'histoire des larmes, c'est donc un nouveau texte que j'ai écrit pour lequel je me suis inspirée de mes propres expériences faites dans cet espace théâtral qu'est la Grande Cour. Je suis également inspirée de mes dessins. Je suis revenue sur certaines de mes idées. Et si on peut dire que Je suis sans est une pièce sur le Moyen-Âge par rapport à la relation entre le corps humain et Dieu, C'est un texte qui se termine avec la fin du Moyen-Âge. Et l'histoire de l'âme, c'est par rapport à cela, la Renaissance, si vous voulez. Et cela exigeait qu'on représente d'une manière tout à fait différente ce dialogue entre le corps et Dieu, c'est-à-dire une vue beaucoup plus intérieure. Aussi par rapport à la mise en scène, cela s'exprime très bien parce que si Je suis sans était pratiquement une projection sur le grand mur de fond dans la cour d'honneur, maintenant la topographie de la pièce a changé et c'est quelque chose de très important. La scène devient une sorte d'espace de mélancolie pour les larmes de Dieu.
I think the two pieces, when I represent the good on earth, of course, all the research of the human body, of the humankind, of the vulnerability of the humankind. In a sense, it's research about the political, social, spiritual body. And the two other pieces I represent, L'Opera de la Berthe, if you finish.
Les deux pièces « Je suis sans » et « L'histoire des larmes » sont évidemment des pièces sur la recherche, sur le corps humain, sur l'espèce humaine, sur la vulnérabilité de l'être humain par rapport à son corps politique, social et spirituel.
For the other two pieces I wrote for Dirk Rodolft, it's the first piece called L'Empereur de la Berthe. I wrote it years ago. It is, in a sense, about an artist who dares to say no, who knows the idea of refusal. The artist as a Colonesque figure, because as artists we are always a kind of Colonesque figures in this society. Le Roi de Plagiat, the new text I wrote for Dirk, it is about an angel who would become a human. And there's, in a sense, the quest that this angel loves human beings. He loves human beings because they are not perfect. They are not original. They are not unique. They are guilty. And this angel wants to become this because he believes in the idea of imitation, copying, plagiarism. This text is a kind of research about what is original or what is fake. It's to, like probably you know all, like the story of the Caves of Lascaux. When you see the Caves of Lascaux, all the drawings, they discovered one line that was 1 centimeter further. This 1 centimeter line was further, introduced new rituals of dancing, of thinking. So the basic idea of the text is about this.
Et les deux autres pièces que j'ai écrites pour l'acteur Dirk Rodolft, il y a la première qui s'appelle L'Empereur de la Berthe, que j'ai écrite il y a de nombreuses années. Et c'est par rapport à un artiste qui ose dire non, c'est-à-dire une pièce sur le refus. Et l'artiste est représenté dans une forme clownesque, parce que finalement, c'est le sort de tous les artistes dans la société, il y a un côté clownesque. La deuxième pièce, qui s'appelle Le Roi du Plagiat, ça c'est une pièce nouvelle que je viens d'écrire, et là il s'agit d'un ange. Un ange qui veut devenir un être humain. C'est une sorte de quête, de recherche de cet ange qui aime les êtres humains parce que justement, ils ne sont pas parfaits, parce qu'ils ne sont pas originels, parce qu'ils ne sont pas uniques et qu'ils ont leur beauté propre. Et l'ange veut devenir ainsi. Il croit dans l'intérêt de la copie, du plagiat, à la limite, si vous voulez. Et c'est donc un texte qui fait de la recherche sur l'original et la copie, le vrai et le faux. Et par exemple, quand on regarde les peintures rupestres dans les grottes de Lascaux, on voit qu'il y a des dessins et à 1 centimètre à côté, il y a, on retrace le même dessin. Mais cela exprime en même temps qu'il y a eu de nouveaux rituels, de nouvelles danses, une nouvelle manière de penser.
And this angel, the way he tries to work, I'm probably telling more about this piece because I'm in rehearsal with this piece, so I'm every day busy with the text. And this angel tries to become a human being by taking four brains of four important people. And the first brain is the brain of Einstein, the brain of Wittgenstein, a brain of Gertrude Stein, and the brain of Frankenstein. And so he uses these four brains as a kind of metaphor of the contemporary thinking of human mankind, in a sense. And by using both of these four brains, at the end of the piece, he will become a human who is too perfect, too unique, too original, and God sends him back.
Et la deuxième pièce, donc, de Juan Fajar, j'en parle un peu plus, parce que je suis en train de faire des répétitions avec les artistes, donc on travaille dessus, et le texte est très présent pour moi actuellement. Cet ange qui veut donc devenir humain s'empare de quatre morceaux de cerveau humain. Il choisit un morceau du cerveau de Einstein, de Wittgenstein, de Gertrude Stein et de Frankenstein. Et tout ceci est une sorte de métaphore pour les différents composants, les éléments qu'il prend. Et en fin de compte, cet ange devient un être humain beaucoup trop parfait, beaucoup trop unique, beaucoup trop originel, et le bon Dieu le renvoie.
I'm now also the last days I spent time in Avignon with Maison Jean Villard. We visited Maison Jean Villard a couple of months ago. Me and Jérôme Sons, we're having a dialogue about the exhibition. The basic idea from Jérôme Sons' his concept is that he chose two movies, an old movie, Tivoli Castle. It's a castle I once made completely in big blue in Belgium. And a new movie, but just in premiere in Madrid, Lancelot. And so the concept of the exhibition, the two pillars of the exhibition is these two movies. The Lancelot movie, it's me fighting in an armor, and the movie of Castle, Tivoli Castle. And these will be the two pillars of the exhibition. And it's, in a sense, the artist in his house. And also the Lancelot movie is about getting a new skin, an armor skin. The film different, new skin. And also the castle was also a project about getting the castle a new skin, to think about what is drawing, what is sculpture, what is the human body in relation to drawing and sculpture. And so now we're selecting pieces from collectors and museums to create the exhibition. So it will kind of a dialogue between older works and recent works.
Et puis il va y avoir l'exposition de mes œuvres dans la maison Jean Villard. Nous avons visité ce lieu il y a plusieurs mois. Et ensuite on a commencé à discuter de l'exposition. Le concept de Jérôme Sens, c'est justement de commencer, si vous voulez, avec deux films. Sont les piliers de cette exposition. Un premier film que j'ai fait il y a assez longtemps déjà, qui s'appelle Le Château de Tivoli, un château en Belgique que j'ai peint en bleu. Et le deuxième film est plus récent, qui a été montré à Madrid, qui s'appelle Lancelot. Et là, dans ce film-là, on me voit, moi, en train de lutter, de combattre. Et à chaque fois, c'est d'une certaine manière la tentative de montrer l'artiste dans sa maison, dans son chez-soi. À Lancelot, dans Lancelot, c'est l'artiste qui essaie d'avoir une nouvelle peau, de faire peau neuve, tout comme c'était le cas pour le château à qui j'ai donné donc une peau bleue. Et tout ceci par rapport à l'interrogation, qu'est-ce que c'est que le dessin, qu'est-ce que c'est la sculpture, qu'est-ce que c'est que le dessin et la sculpture du corps humain. Nous avons donc décidé de réunir des pièces de différentes collections, de collections privées et de musées, afin de composer cette exposition et de créer une sorte de dialogue entre les pièces anciennes de ma part et les pièces nouvelles.
Questions?
Merci. Donc effectivement, c'est des formes très différentes de travaux qui vont être confrontés. Je crois que c'est une des idées du festival, d'offrir aux spectateurs à chaque fois la possibilité de faire un parcours, un voyage dans l'œuvre d'un artiste, dans la maison d'un artiste. Donc ça fait 2 ans qu'on discute avec Yann Pham, et ce dialogue m'a conduit à imaginer cette constellation d'artistes qui compose la 59e édition du festival, dont j'espère les œuvres vont résonner les unes avec les autres, par leur questionnement, par leur esthétique, mais aussi par leurs différences. Alors pour souligner l'importance du corps dans ce festival, j'ai choisi pour la cour d'honneur, après Yann Pham, une chorégraphe, Mathilde Monnier. Mathilde Monnier, en pensant à la cour, prépare une nouvelle création pour 13 danseurs qu'elle a intitulée « Frères et sœurs ». Elle pose l'expérience du désir, de la violence, la mémoire de ces expériences, comme la condition de l'être ensemble pour la petite communauté d'êtres humains qui entoure l'individu. Cette réflexion, c'est le point de départ au travail, car la répétition vient seulement de commencer, et donc on est au début du processus de création. Nous avons souhaité aussi, avec Mathilde Monnier, présenter une autre forme de son travail, donc comme pour Yann, comme beaucoup des artistes, d'arriver à de différentes portes d'entrée dans l'œuvre des artistes, dans l'espace et le temps du festival. Donc elle a proposé une autre pièce, un duo, écrit et interprété avec Christine Angot, dont le titre tout récent est « La place du singe ». Ici, c'est l'intimité de l'artiste qui s'expose, l'intimité de Mathilde Monnier, son histoire, ses origines, qui deviennent matière à création. Et le spectacle sera présenté dans le même temps que le spectacle de la cour, mais à 19h, sous les platanes du cloître des Célestins. La caractéristique de l'artiste à explorer son histoire, son monde intérieur, à trouver dans l'avenir de son être quelque chose d'universel, voire de sacré, c'est la force des poètes. Ce rapport poétique à la création est une chose qui traverse ce festival de façon importante. Il est incarné notamment par un des grands poètes du théâtre français, Olivier Py. 10 ans après La Servante, et après être venu régulièrement à Avignon, Olivier Py revient cette année avec une nouvelle création, un long poème épique, intitulé Des Vainqueurs, 3 pièces méditerranéennes, où un héros traverse le monde avec un sourire mystérieux, qui peut-être est une explication à cette force poétique qui est en nous et qui donne la beauté à la vie. Cette grande épopée sera présentée dans un nouveau lieu du festival, le gymnase du lycée René Char, qui est à quelques kilomètres d'Avignon. Un autre jeune poète du théâtre français, Jean Verville, va venir faire une création intitulée Mu, première mélopée. C'est un spectacle qu'on nous réapprend à rêver, à retrouver une relation sensible au mystère du monde. Ce poème musical et théâtral est inspiré par le rapport au monde, le rapport au rêve des Indiens de Charentes, une communauté indienne du Brésil, où Jean Lamberville a passé 3 longs voyages, 3 longs séjours initiatiques, 3 métamorphoses, comme il dit. Il a créé ce spectacle en compagnie de son collaborateur habituel, le musicien Jean-Luc Terminarias, quelques acteurs et musiciens français, et 4 Indiens de Charentes. Le projet sera l'objet d'une résidence de création au château de Soman, qui est le château d'enfance du Marquis de Sade, à une trentaine de kilomètres d'Avignon. Le spectacle aura lieu dans le parc arboré du château qui domine tout le Luberon. C'est un lieu absolument magique. Un autre auteur de théâtre, Hubert Collat, va prendre les habits de metteur en scène pour présenter 2 spectacles au festival. Tout d'abord Hamlet, qui vient de créer cette semaine au théâtre de la Crillière à Marseille, et qu'il a créé avec l'équipe avec laquelle il avait conçu le mariage de Gombrowicz il y a 5 ans, pièce elle-même inspirée d'Hamlet. Hubert Collat s'est travaillé beaucoup sur la force du verbe de Shakespeare, la force des mots, et sur leur pouvoir d'empoisonnement. Ensuite, dans la 2e partie du festival, Hubert va créer un des rares pièces dialoguées de Yann Pham, intitulée « Le marchand de sel et la mouche ». C'est une pièce étonnante où 2 personnages, dans une relation très forte, s'interrogent sur la place de l'artiste, son rapport au monde, son rapport au rêve, son rapport au public. La pièce sera interprétée par 2 acteurs de la Comédie française, parce que le projet est d'un désir commun, celui de Marcel Bozonnet, administrateur de la Comédie française, d'Hubert Collat, de Yann et du festival. Le spectacle sera créé dans la salle Benoît XII avant d'être repris au studio du vieux, au studio de la Comédie Française. Pas du vieux colon. Dans la place du poète, la place singulière du poète, qui avec ses mots peut essayer de penser et rêver le monde d'une autre manière, on le retrouve dans une grande épopée théâtrale que va nous proposer Jean-François Sibadier. Avec deux grands personnages de la dramaturgie allemande, Danton de Büchner et Galilée de Brecht. La figure du poète trouve ici un écho dans celle du scientifique Galilée, qui s'oppose au dogme de l'Église pour vous donner une autre vision du monde, et aussi dans celle du révolutionnaire Danton, qui rêve d'une nouvelle vision politique et sociale de la France. Dans les deux pièces, le héros échoue dans leur tentative, mais reste la force du verbe, la force du poète. Jean-François Sibadier va présenter la mort de Danton dans la cour du lycée Saint-Joseph pendant 6 soirées, et 3 de ces soirées seront précédées par la vie de Galilée, la vie de Galilée qui avait été présentée dans la même cour du lycée Saint-Joseph en 2002. Dans la science, comme dans Galilée, la science et ses re-questionnements est un endroit important pour le questionnement sur l'humain et son devenir. Et la force de création et d'imagination des scientifiques a beaucoup à voir avec celle des artistes, et c'est sur ce lien entre art et science que travaille beaucoup Jean-François Perret. Jean-François Perret va créer à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, en dialogue avec Luc Steele, un chercheur flamand des plus grands spécialistes au monde d'intelligence artificielle. Et ils vont réfléchir sur la puissance nouvelle offerte par l'informatique, les mathématiques, l'intelligence artificielle, pour réfléchir sur l'humain. En compagnie d'une magnifique équipe d'acteurs, dont Nathalie Richard, ils vont voyager dans la vie et les pensées de Sofia Kovalevskaya. Le spectacle s'intitule « Le cas de Sofika ». Sofia Kovalevskaya, c'est un personnage incroyable, une femme russe du milieu du 19e, romantique, première femme à avoir une chaire de mathématiques en Europe, et en même temps qui a fréquenté Darwin, Marx, Dostoïevski, qui a fait la Commune à Paris, qui écrivait des livres, dont un roman s'appelle L'Annihiliste. Le spectacle va être créé, on s'est associé avec la Chartreuse pour accompagner Jean-François Perret et son équipe, où ils pourront donc à Villeneuve-les-Avignon faire plusieurs semaines de résidence, mais une semaine de travail qui vient de s'achever la semaine dernière, et viendront régulièrement travailler à la Chartreuse pour créer le spectacle qui sera présenté durant toute la durée du festival au dîner de la Chartreuse. Tenter de repenser le monde, ou plutôt un monde, un nouveau monde pour demain, c'est ce qu'essaye aussi de faire Pascal Rambert, auteur et metteur en scène, en préparant sa prochaine création pour le festival, After Before. En cas de catastrophe, que voulez-vous emporter et que voulez-vous ne pas emporter avec vous pour reconstruire le monde? Cette question, Pascal Rambert la pose à des artistes, à des scientifiques, à des habitants de Tokyo, d'Avignon, de New York. À partir de toute cette matière-là, il va écrire son prochain spectacle qu'il écrira avec une troupe de jeunes acteurs et un groupe de personnes âgées entre 75 et 85 ans. Donc une tentative d'écrire avec des corps en devenir, des corps pour qui le temps est passé. Le travail est en cours aussi, les répétitions viennent de commencer. Le spectacle sera présenté au gymnase Panel. Wim van de Gemus est aussi un artiste qui, spectacle avec ce spectacle, crée une mythologie singulière du corps, en travaillant sur un corps libéré, parfois animal, déployant une énergie folle, confrontant des mondes réels et imaginaires, souvent grâce à la puissance de l'image. On devrait retrouver tout cela dans sa prochaine création pour la carrière de Boulbon, intitulée « Pur » en flamand dans le texte et dans le programme. Avec une quinzaine de danseurs, à partir de l'histoire biblique d'Hérode, qu'il a réinventé, il questionnera l'enfance, la violence, la peur de la mort et de l'inconnu, et le besoin de croire. Le cinéma, encore une fois, sera très présent dans cette création, puisqu'il compte projeter des images à même la falaise des carrières de Boulbon. Mais là aussi, le spectacle, les répétitions viennent seulement de commencer, donc ces thématiques, ces thèmes ne sont qu'un point de départ au travail. Une autre compagnie belge, wallonne cette fois, le groupe OFF de Jacques Delcuelle, qui avait présenté à Avignon en 1994, a travaillé sur la Bible également, sur un texte fondateur de notre société, texte fondateur de notre civilisation, pour s'interroger sur le rapport entre l'affirmation d'une unique vérité, d'une vérité absolue, en particulier dans les religions monothéistes, avec la violence absolue des actes de génocide. Il va donner à entendre, comme dans un rondario musical et poétique, des passages de l'Ancien Testament où Dieu jette un anathème, appelle à l'extermination des autres peuples ou de son autre peuple. Les textes vont résonner très étrangement dans le monde d'aujourd'hui. Le spectacle sera créé dans le cloître des Célestins. À côté, dans l'église, Jean-Michel Bruyère s'interroge aussi sur le concept d'humanité et crée une forme intitulée « L'insulte faite au paysage ». Une réflexion sur l'homme errant, sur l'errance aujourd'hui. Pour partager ses questionnements, il poursuit sa recherche d'inventer une nouvelle forme esthétique, une nouvelle relation entre le public et l'œuvre. Donc là, pour ce projet, Jean-Michel Bruyère entame une nouvelle étape dans son travail. Parallèlement, sera présenté à la Porte Flamande, donc c'est juste devant le Petit Palais à Avignon, une incroyable installation du cinéma numérique sous un dôme que Jean-Michel Bruyère a créé il y a quelques années et qui s'intitule « Si poteris narrare licet ». En traduction, ça pourrait être « Si tu peux le dire, j'y consens ». C'est ce que Diane dit à Actéon au moment où elle le transforme en serre dans les métamorphoses d'Ovide. Donc ça évoque les grandes fresques picturales de la Renaissance, comme une chapelle Sixtine numérique. C'est une expérience vraiment étonnante. Et le dôme sera installé durant toute la durée du festival. Un autre artiste avec sa compagnie essaye d'inventer des nouveaux langages, des nouvelles formes de théâtre, c'est Romeo Castellucci et la Societas Raffaello Sanzio. Souvent les nouvelles formes qu'ils travaillent ont une puissance d'évocation extrême qui entraîne les spectateurs dans des mondes inconnus. Ils vont venir avec une des plus grandes, je crois, aventures artistiques en Europe de ces dernières années, la Tragedia Pandemonia. Projet qui tente de représenter sur un plateau la tragédie de l'homme, le mystère de la naissance et de la mort, le rapport entre la loi et la limite, l'affrontement entre la beauté et la barbarie. Ils étaient venus à Avignon avec le deuxième épisode de la Tragédia, en 2002. Ils reviendront avec le troisième épisode qu'ils ont créé à Berlin et avec le quatrième créé à Bruxelles. Le troisième, donc Berlin, sera présenté au théâtre municipal. Et il aborde ces questionnements sous la forme d'un songe. Le quatrième épisode, donc créé à Bruxelles, sera présenté au gymnase du lycée René Char. Et là, il aborde ces mêmes questions dans une dimension peut-être plus politique du monde que l'homme traverse de la naissance à la mort. Alors, entre les arts plastiques, qui inspirent beaucoup Castellucci, Yann Fab et beaucoup d'artistes de cette programmation, et le théâtre et la danse, il y a l'art de la performance, et en particulier le body art. Ce genre de définition multiple, qui depuis les dadaïstes ou les futuristes a toujours inventé de nouvelles formes d'art, en bousculant le rapport entre l'œuvre et le public, entre l'idée et la forme, entre le réel et la fiction. Pour témoigner de cet art, on a invité une grande dame de la performance, dont j'ai eu le sens à parler tout à l'heure, Marina Abramović. Marina Abramović, une grande dame de la performance des années 70 et 80, viendra avec deux objets. Le premier est un spectacle intitulé Biographie Remix, mis en scène par l'artiste Michael Loeb. Spectacle où à la fois elle raconte sa vie de femme, de Belgrade à Amsterdam, ses amours, mais aussi toutes les performances qu'elle a créées, performances qui sont citées sur scène, soit par des archives vidéo, soit reproduites par elle-même ou par des jeunes performeurs. C'est un vrai voyage au pays de la performance. Marina Abramović sera aussi présente au festival avec des installations vidéo qui seront présentées à la Chapelle Saint-Charles, notamment avec une série d'autoportraits tirés de différentes performances qu'elle a faites durant toute sa vie. Le rapport entre le réel et la fiction, entre le réel et le fantasme, et le plateau comme lieu de ces interrogations, est le sujet abordé par Gisèle Vienne, jeune artiste qui a rassemblé autour d'elle de très fortes personnalités qui travaillent à leur manière sur les mêmes questions. Tout d'abord, l'auteur américain Dennis Cooper, qui conçoit les textes et la dramaturgie des deux spectacles que présentera Gisèle Vienne. Le plasticien Jean-Luc Bernard, le musicien Peter Weber, et également Catherine Raoult-Villiers, qui deviendra interprète pour l'occasion. La première pièce, I Apologize, traite de la reconstitution d'un crime. La deuxième pièce, Une belle enfant blonde, évoque la mise en scène d'un fantasme. Les deux pièces seront présentées dans la chapelle des pénitents blancs. Avant Gisèle Pienne, dans cette même chapelle des pénitents blancs, la création d'un artiste très important en Flandre, Jan de Cort. Jan de Cort a marqué toute cette génération d'artistes flamands, dont certains sont invités au festival, comme Jan Fab ou Jan Lowes. Jan de Cort a écrit pour le festival un texte poétique intitulé « Dieu et les esprits vivants ». C'est un texte qui tente de retranscrire dans un français étrange, instinctif, le mystère, la folie d'un esprit humain. Il va créer ce texte à la chapelle des Ténitents Blancs, dans un théâtre qu'il rêve simple et direct dans son rapport au public. Il sera accompagné pour la musique et pour la création musicale de ce spectacle par le chanteur bruxellois Arnaud. Nous avons également invité Arnaud à faire un concert unique à Carrière de Bourbon, le 23 juillet. Dans cette envie de faire découvrir des poètes, des auteurs, des inventeurs de langue est une grande tradition au Festival d'Avignon. Tradition que j'ai envie de poursuivre. Et cette année notamment avec la présence de l'écrivain, de l'auteur Raymond Federman. Avec le metteur en scène Louis Castel et la chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, donc nous proposons de mieux faire découvrir l'écriture de Raymond Federman. Un homme qui a eu un destin assez incroyable, qui a traversé tout le XXe siècle, qui a pu réchapper à une rafle de la Gestapo sauvée par sa mère qui l'a enfermée dans une armoire, qui s'est inventé ensuite une vie d'Américain. Il était ouvrier dans les usines automobiles, joueur de jazz à New York, il a été soldat en Corée, professeur de littérature dans les universités américaines, et il est devenu un des plus grands spécialistes au monde de Beckett. À travers son écriture, Raymond Federman ne cesse de questionner dans des autofictions ou dans des mises en abîme du moi et du jeu, sa propre vie, sa propre personnalité. Louis Castel a ce talent de se mettre au service des écritures pour les représenter sur le plateau. Il l'avait fait merveilleusement récemment sur un travail sur Novarine. Donc le verbe, la force des mots, la force de l'écriture traverse ce festival. On le retrouve dans l'écriture si puissante de Sarah Kay, avec laquelle revient Thomas Ostermayer. Donc on avait envie, avec Hortense, que Thomas Ostermayer soit de nouveau avec nous cette année, après la belle aventure que nous avions vécue l'année dernière. Il nous propose donc ce très beau texte de Sarah Kay, Anéanti, qui raconte le besoin vital d'amour et de compassion que nous cherchons dans les autres êtres humains, même dans un monde de violence et de barbarie. Et je crois que le théâtre de Thomas Ostermayer est tout à fait juste pour aborder une écriture si puissante. Ce texte sera présenté au Peintre des Carmes. La difficulté, mais aussi la nécessité de trouver l'amour dans la chaleur, dans la petite communauté des êtres humains qui nous entourent, on retrouve ce questionnement dans la pièce d'Alok Levin, Krum, qui raconte l'histoire d'un homme, de ses relations avec sa mère, ses femmes, ses amis, ses voisins, dans un petit quartier de Tel Aviv. Et c'est le metteur en scène polonais, Christophe Warlikowski, qui va monter ce texte à sa manière, en puisant dans son intimité, dans son identité, dans celle de ses acteurs, la profondeur d'un théâtre que je trouve toujours très émouvant, toujours bouleversant. La pièce Krum sera présentée dans la cour du lycée Saint-Joseph. Dans une version plus grotesque, presque plus carnavalesque, on retrouve encore ce besoin de fraternité dans la nouvelle création de l'auteur et metteur en scène Hans Irène, auteur flamand de Gand cette fois-ci. Cet été, il présentera à Avignon une pièce intitulée « Marie, éternelle consolation ». Il a créé avec ses trois acteurs, avec beaucoup d'humour et de tendresse, l'histoire de trois personnages, un peu cassés par la vie, qui recherchent chez les autres la chaleur nécessaire pour survivre. Même si ces personnages sont toujours au bord de la chute, au propre comme au figuré, parce que le plateau est transformé en patinoire. Et a priori, c'est possible de faire une patinoire au mois de juillet. Cette question de la communauté dans laquelle l'individu doit essayer de vivre, l'idée de la chute des corps, c'est la matière aussi de la prochaine création de Christian Rizzo, dont le titre est « Soit le puits était profond, soit il tombait très lentement, car ils eurent le temps de regarder tout autour. » Cette nouvelle pièce sera présentée au cloître des Carmes. On devrait retrouver les thèmes chers à Christian Rizzo, la cérémonie du geste, la question de la métamorphose à travers le travestissement, et aussi une relation forte entre les arts plastiques et la danse. On retrouvera Christian Rizzo également dans une création pour le sujet à vif, programme que nous réalisons avec la SACD. William Forsythe est aussi un chorégraphe qui travaille de plus en plus entre les arts plastiques et la danse et les installations. Il prépare pour Avignon une nouvelle installation dansée intitulée You Make Me a Monster en anglais. Le projet est en train de s'inventer, donc je ne sais pas encore exactement de quoi il retourne. On sait qu'il sera présenté l'après-midi au gymnase Vincent de Paul, lieu qu'on avait inauguré l'année dernière, où il avait été présenté la pièce de Frédéric Fitzrac. Un autre artiste est en train d'inventer son projet, mais il sera toujours en train de l'inventer cet été, c'est Yann Lowers, qui revient pour 3 soirs au Festival d'Avignon, pas avec un spectacle, mais avec ce qu'il appelle un e-lab, c'est de laboratoire, de étape intermédiaire d'un projet en cours, qui est présenté avec beaucoup de liberté au public. Ce sera pour 3 soirs au cloître des Célestins. Enfin, et pour finir cette longue liste d'artistes, un autre grand chorégraphe, qui sera notre artiste associé en 2006, Joseph Nadge, sera avec nous dès cet été avec une création pour la chapelle du lycée Saint-Joseph. Une création qui, une nouvelle fois, rapprochera la danse, l'écriture chorégraphique, avec la peinture. Comment retrouver dans le geste, comment retrouver dans le corps, l'image d'un paysage, et ici, un paysage de son enfance, quelque part en Voïvodine. Et encore une fois, ici, on assistera à un geste d'un poète qui tentera, par un geste poétique, de retrouver quelque chose de son monde intérieur et de partager avec le public. Voilà, donc c'est, je crois que c'est un véritable festival de création auquel nous vous convions. Sur les 35 propositions de l'avant-programme, je n'en ai vu que 7. La moitié des spectacles sont créés à Avignon même, et le reste sera créé entre maintenant et le Festival d'Avignon. Je crois que cette tradition de faire d'Avignon un lieu de création artistique, un lieu de risque, partagé avec les artistes et avec le public, une tradition qu'il faut absolument préserver et mettre en avant, c'est une des forces fondamentales du festival et de son histoire. Alors le programme va encore être enrichi par des programmes que nous sommes en train de réaliser avec nos partenaires. Il y a la 25e heure, ce programme de spectacle à 1h du matin, que nous réaliserons en compagnie de l'ADAMI cette année, qui nous soutient dans ce programme. Le sujet à vif et désir d'auteur, que nous réalisons avec Karine Saporta pour le sujet à vif et Louise Outreligne pour désir d'auteur de la SACD. Transculture, qui sera à nouveau au musée Calvé. Le cycle de musique sacrée et le cycle de films que nous réalisons avec le cinéma Utopia. Et nous nous réjouissons de la collaboration avec ses partenaires historiques du festival.
Nous allons donc parler de l'être humain, de son intériorité, de son corps, de sa violence, de sa douceur, de son besoin d'amour, de son extraordinaire vitalité. Les mois que nous venons de passer avec les différents artistes qui seront là cet été nous ont donné une grande énergie, une très grande joie de vivre que nous espérons pouvoir partager avec vous. Ils sont habités par leur création, tous, et leur introspection, qui est toujours transcendée par l'art, nous interroge dans nos peurs et aussi dans notre beauté. Comme disait Vincent, nous allons à partir d'aujourd'hui poursuivre notre travail et imaginer des façons de déployer plus largement la présence de ces artistes avec des films, des lectures et des débats, et aussi les concerts et les différents programmes que nous sommes en train de finir de réaliser. L'avant-programme sera disponible dès demain sur le site internet que nous avons renouvelé. Le programme complet du festival sortira, lui, dans la première quinzaine de mai. L'ouverture de la location, elle est fixée au 13 juin. Enfin, nous souhaitions remercier très chaleureusement l'équipe du festival qui est là ce soir, qui accompagne avec rigueur professionnelle et passion ce projet, qui le rend possible. Les différentes tutelles que sont l'État, la ville d'Avignon, le département de Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui nous soutiennent, suivent avec attention les développements de notre projet en garantissant totalement notre liberté artistique. Les partenaires qui poursuivent leur route avec le festival, Dexia, l'ADAMI, le Conseil régional d'Île-de-France, Arte, la FNAC, le Crédit coopératif, le Conseil régional de Centre qui nous aide, les partenaires locaux, la Farge pour la carrière de Boulbon, France Boisson, Interrhône et Bacaras qui nous permettent de renforcer le côté festif du festival, les CMEA qui nous aident à accueillir chaque année un public nombreux, aussi les partenaires qu'a cité Vincent avec qui nous construisons les programmes que sont bien sûr la SACD, France Culture, les cinémas Utopia, la CCS cette année et Musique Sacrée en Avignon. Enfin, nous tenons à remercier très très chaleureusement Yann Favre et toute son équipe pour l'investissement joyeux dont ils ont fait preuve tout au long de notre collaboration et pour les quelques mois à venir pleines de créations qui restent à parcourir avant de se retrouver en juillet. Merci beaucoup.